du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à foi 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous passez un bel été avec des températures qui sont devenues beaucoup plus respirables. Et ça, c'est un vrai bonheur. Dans quelques instants, on va parler de linage. Oui, Anne-Rose Jankovic va nous amener dans une fabrique. Il est l'heure pendant cet été de vous faire revivre les meilleurs moments de l'année. Et puis, on parlera aussi d'une maison des femmes, les femmes avec la santé. C'est dans le Gers, grâce à Pauline Cazier. C'était également un reportage qu'on vous avait proposé pendant la saison radiophonique. Et puis un jour, un livre, un auteur, Philippe Nolny a décidé pendant cet été de vous faire une sélection de livres que vous prendrez le temps ou pas de lire. En fait, il quand même donne une petite chance à certains livres et prendre aussi le temps de réfléchir pendant l'été. Et il parlera entre autres aujourd'hui des réseaux sociaux et de tous les fake news que l'on peut lire et qu'on peut entendre également. Eh bien, un livre a été consacré là-dessus. Prendre aussi le temps de l'été pour réfléchir, c'est aussi très intéressant. Voilà pour aujourd'hui le sommaire de Un jour, un livre, un auteur. Et je vous propose tout de suite de retrouver Anne-Rose Jankovic qui nous fait partir en reportage dans une usine de lainage. C'était une émission qu'on avait enregistrée pendant cet hiver.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener du côté de Bagnères de Bigorre et de parcourir le magnifique axe qui vous conduit de Bagnères jusqu'à Tournai, alors sans doute êtes-vous passé devant l'entreprise du Val d'Arize, Lainage des Pyrénées, une petite entreprise familiale implantée dans le village de Ciotat et qui conserve un patrimoine et un savoir-faire typique de notre région. Nous découvrons aujourd'hui les ateliers avec Romain Lopez, gérant de l'entreprise.
Alors, on est ici dans l'atelier de confection, voilà. Donc où on a toutes les petites machines pour coudre, pour assembler les parties des vêtements. Donc les surjeteuses, les piqueuses, les boutonnières, pose-boutons, ourleuses, festonneuses. Voilà, on a toutes les petites machines qui servent à confectionner nos articles. Ensuite, on va passer à la production du tissu. Donc voilà, on arrive sur la première étape de fabrication du tissu. Donc nous, on reçoit les bobines comme ça, déjà teintes, déjà filées. Et on va en faire des bandes de fil qu'on va venir enrouler autour du tambour en bois. On va faire un certain nombre de tours, puis on va décaler, faire une autre bande et ainsi de suite jusqu'à remplir le tambour en entier. Et ensuite, on va ensouplir, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les fils qu'il y a sur le tambour en bois, on va les passer sur les rouleaux métalliques que vous avez derrière. Voilà. Et ensuite, ces rouleaux métalliques vont servir à faire notre tissu des Pyrénées. On va ensuite le tricoter sur les étapes suivantes. Voilà. Donc, on voit les bandes de fils qui ont été faites. Voilà.
Ça, c'est de la laine.
Voilà, c'est de la laine. Voilà. Et on voit les bandes de fils qui ont été faites. Et ensuite, tout en même temps, sont enroulées autour du tambour en bois. Enfin, autour du rouleau métallique. Voilà. Et ensuite, on les porte avec le palan, parce que bon, ça pèse quand même son poids. Voilà. Et donc, on va les mettre sur les métiers à tricoter. Voilà. Donc, ce sont des métiers Rachel. Ce sont un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Le rouleau de devant va tricoter, faire des boucles dans des boucles, et les rouleaux de derrière vont faire un système de va-et-vient qui s'apparente au tissage. On n'a pas la navette qui fait de droite à gauche. Voilà. Donc on voit quand même ici là, les aiguilles qui montent, qui attrapent les fils.
Et qui tricotent.
Et qui tricotent. Voilà. Voilà. Donc là, sur cette machine, il y a 1737 fils qui tricotent en même temps. Voilà. Donc il faut avoir l'œil dessus, pas qu'il y en ait un qui casse, voilà. Voilà. Et donc ça donne ce tissu, voilà, qui est indémaillable. C'est la première étape de fabrication. Et ensuite, on va carder ce tissu pour donner exactement de l'épaisseur, de la douceur et surtout le terme tissu des Pyrénées. Carder, ça veut dire gratter avec des chardons. À la base, on a une petite machine d'exposition là-bas. Oui, vu, oui. À l'origine, on utilisait des poilus brouillés, voilà. Carder, ça vient de chardon, en fait. On va passer le tissu dans cette machine, une carde. Donc on va gratter plusieurs fois, en droit, en vert. Dans un premier temps, on va agresser le tissu, faire sortir la fibre. Et dans un second temps, on va...
Dessus,
voilà, exactement.
Ça, c'est avant le passage.
Voilà. Là, il n'y a pas eu de passage. Ici, comme vous pouvez le voir, on a gratté qu'un côté d'abord. Voilà, là, ça n'a pas été gratté. Et une fois terminé, ça donne ce tissu.
C'est incroyable.
Voilà. Et ensuite, là, nous avons toutes les petites machines de finition, celles qui font les côtes, les ganses, les galons. Mis à part les boutons et les fermetures éclairs, nous fabriquons tout ici, tout sur place.
Bonjour Romain Lopez.
Bonjour.
Vous êtes le gérant de la société Valdariz. C'est une fabrique de tissus des Pyrénées, à quelques kilomètres de Bagnères de Bigorre, à Ciotat exactement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise qui est, je crois, familiale ?
Alors oui, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1978. Et voilà, ensuite ma grand-mère a repris, mon père, ma mère, et maintenant moi, j'ai repris en début d'année, en janvier. Et voilà, c'est une tissu de lainage des Pyrénées, c'est un tissu 100% pure laine, donc on vient tricoter le tissu et ensuite on va le gratter pour avoir cet aspect doux, épais, chaleureux, voilà.
Donc c'est la laine qui provient des moutons des Pyrénées, pas tout à fait.
Non, alors c'est la manière de faire qui vient des Pyrénées.
D'accord.
La laine, les moutons, eux, sont étrangers. Ils viennent de grosses productions néo-zélandaises, australiennes, sud-américaines.
Voilà. Et ça vous arrive donc par grosses remorques, racontez-nous.
Alors non, nous on reçoit les bobines de fil déjà filées, déjà cardées, déjà teintes. Voilà, donc on choisit le fil à la couleur, on choisit la couleur qu'on veut tricoter. Et ensuite, on les met sur les métiers.
Alors, votre métier à vous, c'est justement de travailler sur ces machines qu'on appelle, d'un nom que vous m'avez dit tout à l'heure, mais que j'ai oublié.
Alors, il y a plusieurs machines. Il y a l'ourdissoir, qui consiste à faire des grosses... Avec ces petites bobines de fil, on va en faire des grosses bobines. Voilà. Ensuite, il y a les métiers Rachel. Ce sont les métiers à tricoter. C'est un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Et ensuite, il y a la carde où on va gratter le tissu une fois tricoté. Voilà.
Et ça, c'est vous qui faites ça. Vous êtes tout seul sur ce poste-là pour gérer ces machines.
Oui, effectivement, je suis tout seul à la ligne de production de tissus. À une époque, on était plusieurs, mais voilà.
Alors, pour nous donner une idée, combien de mètres de tissus pouvez-vous produire chaque jour grâce à ces machines ? Et vous tout seul, en plus.
Alors, à la journée, on va faire une centaine, 150 mètres. Ça dépend des journées. Voilà.
Avec à chaque fois les teintes que vous sélectionnez en fonction de ce que vous envisagez de produire juste après.
Exactement, voilà.
Alors, une fois que ces tissus sont fabriqués, qu'est-ce qui se passe ? L'étape d'après, c'est quoi ?
Alors ensuite, on va découper des pièces de tissu qu'on va ensuite confectionner pour faire nos produits, nos robes de chambre, des vestes, des ponchos.
Ça, c'est la spécialité, robe de chambre, ponchos, c'est la spécialité de production ici.
Oui, oui, la robe de chambre, c'est notre produit phare, on va dire. Voilà, notre produit principal.
C'est un produit qui est encore à la mode ?
Eh bien, oui, plus ou moins, oui, bon, pour une certaine tranche d'âge. Mais on arrive à en vendre pas mal, oui.
Alors, comment on renouvelle, justement, le style, les propositions de style. Comment on fait pour proposer des produits qui peuvent plaire à toutes les générations et voilà pouvoir aussi continuer à faire ce métier-là tout en ne tombant pas dans une spécialité pour une certaine tranche d'âge.
Eh bien, alors on a une styliste qui nous crée de nouveaux modèles. Voilà, et puis on essaye de se diversifier dans les coloris, faire des couleurs un peu plus flashy, ouais. Voilà, des écossais un peu plus pêchus, on va dire, voilà.
Toutes les couleurs marchent.
Toutes les couleurs marchent. On peut faire n'importe quelle couleur. Là, on a un joli écossais, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec du orange.
Ah oui, voilà, orange et un peu turquoise.
Voilà, c'est alors opale. Opale et orange, ce qui tranche.
Donc, et qu'est-ce que vous allez produire avec ça? Une robe de chambre?
Oui, on va tout faire, robe de chambre, des vestes, des plaids, des couvertures, voilà.
J'ai vu aussi dans la boutique des accessoires.
Mmh. Oui, on fait pas mal d'accessoires, des mitaines, des tours de cou, des écharpes, voilà. On essaye de se diversifier en faisant des petits articles qui se vendent plutôt pas mal.
Donc vous êtes à la production des tissus. Vous nous avez dit que vous avez une styliste. Il y a des couturiers, des couturières?
Oui, effectivement. Il faut des couturières. Donc elles sont trois au petit atelier. Et voilà.
Ça veut dire que chaque pièce qui est produite est une pièce unique?
Oui, toutes nos pièces sont uniques, coupées à la main, faites à la main. Voilà, dans notre petit atelier, on les contrôle aussi manuellement, avant de les emballer, on leur met un dernier petit coup de brosse pour redonner un peu de volume au tissu. Tous nos produits sont faits avec amour, voilà.
C'est un vrai défi économique de porter une entreprise comme celle-ci sur un territoire comme le nôtre, et en même temps, c'est aussi le pari de la valeur, le pari que eh bien, le consommateur, l'acheteur, le client va apporter de l'attention à la qualité du produit et au côté unique de ce que vous produisez.
Oui, nous ce qui m'importe, c'est la qualité. Il faut que... mon père m'a inculqué cette qualité, donc j'essaye d'y mettre tout mon cœur aussi dedans pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà.
Alors vous avez grandi dans cet univers, vous avez repris l'entreprise familiale. Pour vous, c'était une évidence?
Oui, c'était une évidence. J'ai fait mes études en fonction de mes choix, enfin de... comment dire? En fonction de... j'ai toujours voulu venir travailler ici, oui.
Parce que ce métier-là, sur toutes les machines que vous nous avez présentées, ce sont quand même des pratiques très particulières. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en France qui savent utiliser ces machines. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment de pratiquer une profession un petit peu hors du commun?
Oui, bien sûr. C'est un métier unique, bien évidemment. Alors, en France, les fabriques de textiles se font de plus en plus rares. Donc, et de plus, le tissu des Pyrénées, je pense que je suis peut-être le seul en France à faire ce que je fais. Voilà.
Avec quand même ce retour, on le voit parfois, on l'entend parfois dans les médias, ce retour quand même aux
matières nobles, oui.
Les matières nobles, voilà. La laine a une seconde vie, vous diriez ça?
Ben oui, nous en tout cas, on essaye de lui donner une seconde vie, une seconde jeunesse. Et voilà, on essaye de faire perdurer cette matière qui est essentielle.
Comment est-ce que vous vendez? Alors je crois qu'il y a une boutique ici sur place, hein, au magasin d'usine, mais vous avez d'autres moyens de vente?
Alors on a bien évidemment le magasin d'usine, ensuite nous avons créé récemment aussi un site internet vendeur, voilà, et ensuite on vend à des boutiques de centre-ville, on vend à des revendeurs internet aussi, voilà. Et on a un autre client qui est comme un revendeur par correspondance, un peu style les Trois Suisses, voilà, mais spécialisé, lui, dans la laine.
Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des personnes d'ici qui sont vraiment attachées au patrimoine et à ce savoir-faire qu'ils ont vu et dont ils ont entendu parler de génération en génération? Est-ce que ce sont aussi des touristes? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout?
Alors on a de tout, on a des locaux, on a des curistes, on a des touristes, des gens qui passent devant l'usine, qui voient l'usine, s'arrêtent, viennent visiter nos ateliers et ensuite achètent un petit truc au magasin. Voilà, ça vient de partout.
C'est ça aussi la particularité, et je tiens quand même à le dire, c'est l'accueil et la disponibilité. Vous êtes 6 dans l'entreprise, vous avez beaucoup de travail, vous ne chômez pas, mais par contre, quand quelqu'un arrive, vous vous rendez tout de suite disponible pour faire visiter, pour présenter. Ça fait partie, c'est comme ça aussi que vous voyez votre métier, ça fait partie de votre métier de montrer, d'expliquer, et le côté pédagogique, il est important pour vous ?
Oui, bien sûr, ça fait connaître notre métier, c'est essentiel. Donc, on a souvent des visites, on fait faire des visites par l'Office du tourisme de Bagnères, il nous amène énormément de monde. Donc, bien sûr, quand des gens viennent visiter l'usine et nous posent des questions, on s'arrête, on leur répond, et ça fait... les gens ne soupçonnent pas qu'il y ait autant d'étapes de fabrication dans un vêtement. Voilà.
Ouais, et puis un réel savoir-faire avec une équipe que l'on voit jeune, et ça fait plaisir de voir ça. Alors une dernière question, un peu une question qui fâche, mais peut-être que parmi nos auditeurs, certains se disent, oh bah oui, c'est très joli, c'est très bien, le savoir-faire, acheter directement au producteur, mais tout ça, ça coûte cher, alors il vaut mieux sur des grandes lignes, voilà, des grandes chaînes de vêtements. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cet argument du prix, entre la qualité et le prix? Quelquefois on ne sait pas quoi choisir. Qu'est-ce que vous pourriez répondre?
Je ne sais pas trop. Moi, je fais de la qualité, voilà. Bien sûr, chaque travail mérite salaire, donc on se donne du mal pour faire un produit de qualité, donc c'est normal qu'il soit un peu excessif.
Et un produit qui dure.
Et un produit qui dure, bien évidemment, dans le temps.
Parce que là, ce que vous produisez, ça peut durer toute la vie.
Oui, ça peut durer toute la vie. Nous, on a régulièrement des gens qui viennent nous voir, nous dire, voilà, il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, je suis venu acheter une robe de chambre chez vous, et là, elle commence un peu à s'user, un peu sur les coudes.
Au bout de 20 ans.
Au bout de 20 ans.
Voilà la différence entre ce qu'on achète sur des chaînes de vêtements.
Bien sûr, c'est sûr qu'un t-shirt fabriqué en Chine, il va vous faire 3 lavages. Il va être un peu en biais, donc voilà.
Ça n'arrive pas avec les articles du Val d'Arise. Ah, en fait, j'ai encore une question. Ça, c'est un petit peu la ménagère qui se pose la question. Comment on lave? Comment on entretient? Ça ne se lave pas peut-être, la laine? Alors, c'est pas bien. Je vous vois bondir.
Non, la laine ne se passe surtout pas en machine. Sinon, on se retrouve avec un vêtement pour enfants.
Même sur les programmes spécial laine?
Oui, exactement. Nous, ce qu'on recommande, c'est un coup de brosse et laisser aérer. Voilà. Bon, bien sûr, si vous faites une grosse tâche avec un liquide, tout ça, il vaut mieux l'amener au pressing, lavage à sec. Mais sinon, si c'est juste de comment dire,
il faut... des odeurs, par exemple.
Voilà. Des odeurs, et bien vous mettez un coup de brosse, vous le laissez aérer. Et la laine est une matière naturelle. Elle se auto-lave, en fait.
Ben voilà, la bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le site internet www.vda.fr, www.vda.fr. Sur ce site internet, on a à la fois un petit peu d'histoire, un petit peu de présentation de votre métier, et puis la possibilité d'acheter en ligne les productions qui sont chacune des pièces est unique. Hein, voilà.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Et merci Anne-Rose Jankovic. Vous l'avez compris, la laine, ça ne se lave pas. Voilà pour un conseil bien pratique. On va parler dans quelques instants, on va aller du côté du Gers, puisque Pauline Cazier avait fait un reportage pendant cette saison radiophonique sur l'ouverture de la Maison des Femmes et de la Santé. C'est dans le Gers et c'est à découvrir juste après avoir écouté très belles chansons qui vont sûrement faire plaisir aux plus anciens et plus largement à tout le monde. La Bohème de Charles Aznavour.
Présence à Salis du Salat 94.1.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous.
Quelle est belle cette chanson à l'instant interprétée par Charles Aznavour. La bohème sur présence à 12h passée de 22 minutes. Je vous propose de partir dans le Gers tout de suite avec Pauline Cazier, un reportage qu'elle nous avait fait il y a quelques semaines.
Radio Présence dans le Lauragais 97.9.
En décembre dernier a ouvert à Auch une maison des femmes santé du Gers. C'est porté par le centre hospitalier, un lieu dédié à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou financières. Grâce à une équipe médicale complète, les femmes sont écoutées et accompagnées vers une démarche judiciaire si nécessaire. Au micro de Pauline Cazier, on écoute le docteur Véronique Lejeune qui nous parle de cette structure à Auch.
Donc bonjour, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital d'Auch. Je suis responsable du pôle mère-enfant et on m'a confié la responsabilité médicale de la création de la maison des femmes du Gers.
Oui, parce qu'il y a eu donc le 9 mars une soirée débat autour de la projection du film La maison des femmes qui est sorti en France, un très très beau film. Et donc je suis venue vous voir pour que vous me présentiez cette maison des femmes qui a été ouverte en décembre dernier. Elle dépend de l'hôpital d'Auch.
Oui, effectivement, il y avait une demande des autorités de créer une maison des femmes dans chaque département en France. C'est un mouvement qui a commencé suite à cette première maison des femmes qui avait été créée à Paris et qui fait l'objet du film. Au décours de ça, de ce mouvement, il y a eu une proposition d'ouvrir effectivement ces lieux dans chaque département en France. Donc nous, ici au niveau du Gers, ce projet est arrivé au moment de la création du pôle d'accueil des victimes et la convention a été signée avec l'ARS et le ministère de la Justice pour les 3 unités.
Le pôle unité médico-judiciaire, c'est ça ?
C'est ça, qui regroupe 3 unités, l'unité médico-judiciaire de proximité, l'UAPED, c'est-à-dire le centre d'accueil des enfants en danger, et la maison des femmes. Donc la maison des femmes, c'est un lieu qui, contrairement à son nom, n'est pas un lieu qui accueille des hébergements, mais c'est un endroit qui regroupe des professionnels pour que les femmes victimes de violences, dont on sait qu'elles sont souvent isolées, qu'elles ont difficulté à faire cette démarche de demande d'aide, aient un seul lieu d'accueil dans lequel vont être regroupées un maximum de personnes qui seront là pour les aider. Alors bien entendu, ça se crée pas dans un désert, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà dans le Gers pour aider les femmes victimes de violences, des associations, des instances gouvernementales, tout un tas de maillages qui existent déjà aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est pas de créer quelque chose à côté, c'est de créer quelque chose avec, et que les femmes qui veulent se faire aider lorsqu'elles sont victimes de violences, que ce soit des violences physiques, sexuelles ou non, ou des violences psychologiques, ou même des violences financières, c'est-à-dire qu'elles sont empêchées de tout parce qu'on leur a pris leur papier et qu'elles dépendent entièrement de quelqu'un, toutes ces femmes-là pourront contacter un organisme unique central qui les recevra physiquement, discrètement, et qui essaiera de voir ce dont elles ont besoin.
Parce que c'est important de dire discrètement, c'est-à-dire qu'elles sont reçues dans un cadre sécurisé avec des psychologues, entre autres, bien sûr.
Oui, alors il y a un accueil qui est fait en premier accueil, qu'il soit physique ou téléphonique, par des infirmières qui ont été formées à l'accueil et des secrétaires. Et ensuite, en fonction du besoin des femmes, on met à leur disposition aujourd'hui 3 professionnels qui sont un professionnel médical, qui en fonction des jours et des besoins sera un médecin ou une sage-femme, une assistante sociale et un psychologue. Donc tous sont formés à l'accueil de femmes victimes de violences, parce que ce ne sont pas des patients comme les autres. L'abord doit être différent, patient et particulier. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas leur imposer un parcours, mais de petit à petit leur faire exprimer les besoins qu'elles ressentent, qui vont évoluer avec le temps, on le sait, et petit à petit répondre à leurs demandes, mais aussi, et c'est vraiment la vocation première de ces établissements, les faire rentrer dans un accompagnement dans lequel on pourra leur faire participer à des ateliers qu'on appelle d'amélioration de l'estime de soi, pour pouvoir un jour se réinsérer dans la société avec l'absence de handicap, on peut l'appeler ça comme ça, qui est le fait qu'elles subissent ou qu'elles aient subi des violences.
Parce qu'il faut dire que les femmes qui subissent des violences, elles le sont souvent depuis très longtemps. La peur, souvent elles ont peur de porter plainte. Et là, c'est très compliqué. Elles mettent beaucoup de temps à trouver de l'aide si elles n'y arrivent pas souvent.
On sait qu'elles ont des difficultés, parfois même à se libérer pour aller quelque part, qu'elles ne veulent pas quelque chose d'institutionnel ou de juridique immédiat qui retombera éventuellement sur l'auteur des violences et qui pourrait pénaliser leur vie ou les mettre en danger, elles ou leur famille. Quelquefois, c'est des violences anciennes aussi, hein, et elles vivent avec ça et elles savent que ça impacte leur vie quotidienne. Donc, le but de cette structure, c'est que ce n'est pas une structure juridique. C'est pas un endroit où on va pour porter plainte. On pourra. Un certain nombre de femmes aujourd'hui vont directement porter plainte et c'est leur voie d'entrée dans la prise en charge des violences. Et à ce moment-là, elles seront envoyées à l'unité médico-judiciaire pour la partie pénale. Et ensuite, l'unité médico-judiciaire les rebascule vers la maison des femmes ou vers les associations pour qu'elles soient elles-mêmes soignées vis-à-vis de leur traumatisme. Et ce qu'on offre aujourd'hui, c'est une deuxième porte d'entrée. C'est des femmes qui viennent pour qu'on s'occupe d'elles en premier. Et petit à petit, au fur et à mesure de la prise en charge, elles décideront si oui ou non elles souhaitent porter plainte. Et si oui, on a une convention avec la police et la gendarmerie pour qu'ils puissent venir recueillir leurs plaintes sur place sans qu'elles aient besoin de se déplacer dans un commissariat ou dans une gendarmerie.
Quand on parle de reconstruction, j'imagine que ça prend énormément de temps. En quoi ça consiste ? Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, thérapeutiques, ce genre de choses ?
C'est l'objectif, hein. Si on prend l'exemple de la Maison des Femmes de Saint-Denis, hein, celle qui est présentée dans le film, elle existe maintenant depuis, je ne sais pas, une bonne dizaine d'années, je dirais comme ça, à la louche. Ils ont mis en place tout un système, effectivement, de bénévoles, ou non d'ailleurs, qui vont venir créer des ateliers artistiques, musicaux, de sport, de groupes de parole, tout un ensemble de propositions qui aident les femmes en fonction de leurs besoins et de leur sensibilité à se réinsérer dans la vie sociale. Aujourd'hui, la difficulté que nous on a à l'hôpital d'Auch, c'est que on a dû ouvrir assez rapidement la maison des femmes pour des raisons administratives, et donc pour l'instant, on l'a ouverte dans le même local que l'UMJP, c'est-à-dire qu'on a 3 bureaux pour les 3 intervenants, ce qui n'est pas du tout un lieu suffisant pour pouvoir faire cette prise en charge holistique et globale avec des ateliers. Donc, adossé à cette ouverture qui permet déjà de recevoir les femmes, et on en a déjà reçu, et on commence à créer notre réseau, il y a un projet architectural de aménager une vraie maison dédiée à l'accueil des femmes, avec des lieux qui permettront de faire ces ateliers, que ce soit un lieu de repos pour elles, de ressources. Et donc les 2 bâtiments qui sont quasi voisins font partie du site de l'hôpital, mais ne sont pas intégrés dans l'hôpital pour des raisons de confidentialité. C'est un petit peu à part. Et ce bâtiment, qui va être réhabilité pour en faire une maison des femmes, pour l'instant, on en est au projet architectural, et on est aussi dans la recherche des mécènes pour avoir des financements.
Est-ce qu'on peut parler de l'aspect prévention ? Il existe ce qu'on appelle le violentomètre, qu'on peut trouver à l'hôpital ou dans d'autres, peut-être chez les médecins, qui explique, quand on est victime de violence, le degré de violence, et puis à quel moment ça devient critique ?
Alors, la Maison des Femmes, elle n'a pas seulement un rôle d'accueil, elle a un rôle d'éducation et de prévention, aussi bien auprès des potentielles victimes que de tous les gens qui pourraient les repérer, que ce soit l'éducation nationale, les médecins généralistes, tous les gens, même du public tout venant, hein, on fait bien du secourisme dans la rue, on pourrait tous être capables de repérer des situations de violence ou de détecter dans des choses qu'on nous raconte quelque chose qui est le début du cycle de la violence, plus ou moins avancé, comme vous le disiez, notamment avec cet outil de mesure. Oui, le rôle de la Maison des Femmes, ça va être de parler des violences, de comment on les repère et de comment on les prend en charge. Et ça, toute l'équipe y est prête.
C'est un sujet très très grave, très douloureux, mais est-ce qu'on peut être optimiste est-ce que vous avez des exemples de femmes qui ont réussi, après avoir fréquenté la Maison des Femmes, réussi à s'en sortir, accompagnées par tous les gens qui travaillent dans cette maison ?
Alors, localement, non, bien sûr, puisque nous, on ne fait que démarrer. Mais on a des témoignages qui viennent de plusieurs endroits. Et c'est d'ailleurs pour ça que les autorités s'en sont emparées avec des financements publics. Parce qu'on sait que c'est un vrai besoin et que pour la maison pionnière qui était celle de Saint-Denis, les résultats étaient suffisamment encourageants et positifs pour que l'État décide de financer ça dans tous les départements.
Il y a les femmes, mais il y a aussi les enfants. Parce que les enfants sont souvent témoins des violences conjugales. Est-ce qu'ils sont aussi pris en charge ?
Oui, l'avantage de notre maison des femmes, c'est que le personnel est mutualisé, notamment les infirmières, l'assistante sociale et le psychologue, avec l'UAPED. Donc, en fait, dans les deux sens, on a des enfants victimes de violences qui viennent à l'UAPED et on se rend compte que la mère aussi, parfois, et du coup, elle est basculée dans la maison des femmes. Et à l'inverse, on interroge les femmes sur leur famille, qui peut assister aux violences, etc. Et du coup, pouvoir aussi prendre en charge les enfants, c'est l'avantage d'avoir tout sur le même site.
Une dernière question sur les chiffres dans le département du Gers. Est-ce que vous savez à peu près à combien il se monte ?
Alors, en termes de violence pour les femmes, clairement non. On n'a pas de chiffres. Les associations ont probablement des chiffres, des gens qui s'adressent à eux, mais qui est très probablement très très en dessous de ce qu'on imagine, hein, puisque aujourd'hui, les chiffres qui sortent au niveau national, c'est de dire que pratiquement un quart des femmes auront été victimes de violences dans leur vie, soit dans la petite enfance, soit plus tard.
D'où la nécessité de voir ce film, La Maison des Femmes, qui est sorti récemment. Merci beaucoup, docteur Lejeune.
Et merci aussi à vous, Pauline Cazier, qui avait réalisé ce reportage. C'est en décembre dernier qu'a ouvert à Auch cette Maison des Femmes Santé du Gers. C'est porté par le centre hospitalier. C'est un lieu dédié à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou financières. Un grand merci à Pauline Cazier, donc, qui a réalisé cet entretien à Auch.
Présence dans la cité mariale 96.
Voilà, vous savez tout sur cette maison. Vous l'avez compris, hein, c'était une interview qui avait été enregistrée au mois de décembre dernier. Puis l'été, eh bien, on prend tranquillement le temps de vous faire entendre le meilleur de la saison dernière. Pour l'heure, ce n'est pas une rediff, c'est bien l'information d'aujourd'hui avec l'Info-Région qui nous est présentée par Clémence Roux, qui est étudiante à l'École du journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, de nouveaux éléments après le décès d'un ouvrier sur le chantier de la future ligne C du métro à Toulouse. L'homme de 48 ans, mort lundi à Labège, effectuait son tout premier jour sur le chantier. Une enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. L'inspection du travail et les services de police ont été saisis. La canicule continue par ailleurs de peser sur la Haute-Garonne. Le manque de pluie et les fortes chaleurs mettent à rude épreuve les terrains de football. Plusieurs clubs s'inquiètent déjà pour la reprise de la saison et envisage d'adapter, voire de reporter certains entraînements si la sécheresse venait à durer. Dans les Hautes-Pyrénées, les secours renouvellent également leur appel à la prudence. Ils rappellent qu'il est fortement déconseillé de se baigner dans les lacs de montagne, une eau particulièrement froide, des profondeurs difficiles à apprécier et des interventions de secours complexes rendent ces baignades très dangereuses. Dans le reste de l'actualité, le ragondin fait son retour à Toulouse. Plusieurs individus ont été observés dans différents secteurs de la ville. Cette espèce invasive peut fragiliser les berges des cours d'eau et favoriser la propagation de certaines maladies. Les autorités invitent les habitants à ne pas nourrir ces animaux et à signaler leur présence. Autre sujet, les chauves-souris sont de plus en plus menacées en France. Plus de la moitié des espèces ont disparu. Dans le sud-ouest, plusieurs associations œuvrent à leur protection. Ces mammifères jouent un rôle essentiel dans la biodiversité en régulant naturellement les populations d'insectes. Enfin, dans le Tarn, les mobilisations restent fortes après l'incendie qui a détruit la caserne des pompiers de Valence d'Albiégeois. Habitants, élus et sapeurs-pompiers poursuivent leur démarche pour maintenir un centre de secours sur place et assurer la protection des quelques 2500 habitants du secteur. C'était votre point sur l'actualité régionale. Très belle journée à tous. Radio Présence.
Merci beaucoup Clémence Roux, voilà, étudiante à l'École du journalisme. Et on salue bien sûr tous ces étudiants qui nous ont accompagnés pendant cette saison radiophonique et qui sont même là pendant l'été. Une sélection de livres, c'est ce que nous propose tout de suite Philippe Louny avec Diego Arabal. Philippe Louny est allé donc chercher des livres qui peuvent vous intéresser et particulièrement des livres consacrés aux fake news qu'on peut lire dans les réseaux sociaux ou dans certains magazines de presse. Eh bien écoutez, voilà, un livre qui parle des fake news, comment essayer de regarder où est la vérité, c'est ce que nous propose tout de suite un jour, un livre, un auteur.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Bonjour Philippe Louny.
Bonjour Philippe Subercase.
Et bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Diego Arabal.
Voilà, on a l'impression qu'on... Bonjour les Dupont.
C'est Dupont et Dupont.
Avec un D et un T. Voilà, avec un D. Nous, il y a un L et deux P. Ça n'a pas changé pour vous.
Vous savez comment on reconnaît les Dupont et Dupont? Il y en a un qui a la moustache qui tombe. De mémoire, c'est Dupont avec un D. Il y en a un qui a la moustache qui se relève. C'est Dupont avec un T.
D'accord.
Regarderai dans ton terme. Parce que je me suis dit comment on les distingue. Ouais.
D'accord. Eh bien, oui, j'ai jamais fait attention.
Ouais.
Mais vous êtes un puits de science, mon cher Philippe. Reconnaître les Dupont et Dupont, ça, c'est. En même temps, on ne le sait pas, on passe à côté de sa vie.
Exactement, je trouve. C'est toujours intéressant, ces petits détails.
Cette semaine, mon cher Philippe, vous avez décidé de nous faire vous avez fait une petite sélection de livres.
Exactement, que j'ai surnommé, donc, après le quartier libre, il y a quelques semaines de ça, de Lucie Plessala, de la librairie Bleu et Or. Là, ça va être des livres et encore des livres. Le premier, dans un monde où les réseaux sociaux véhiculent parfois des infox délirantes, il est bon de se pencher sur des livres qui posent le débat et invitent à la réflexion. Pierre-André Taguieff, Les théories du complot, aux éditions Que sais-je. Voilà un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, puisque nous sommes aujourd'hui dans une époque où, vous le savez, les jeunes s'informe énormément par le biais des réseaux sociaux. On sait qu'on peut y trouver le pire et le meilleur. Eh bien, le grand avantage, effectivement, de ce livre, c'est que il explique un peu ce qu'est une théorie du complot. Alors, la maison d'édition Que sais-je, on n'en a jamais parlé, de mémoire, on n'a jamais fait un livre donc avec les éditions Que sais-je depuis 13 ans. L'avantage, c'est qu'elle propose des livres réflexifs qui permettent de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Et ben, dans Un jour, un livre en auteur, on se propose effectivement d'en parler. Et je vais lire la quatrième de couverture du livre « Les théories du complot ». Par théorie du complot, on désigne des explications douteuses ou fausses qui s'opposent aux thèses « officielles », entre guillemets « officielles », et mettent en scène un ou plusieurs groupes agissant en secret pour réaliser un projet de domination ou d'exploitation. Les conspirateurs fantasmés sont supposés être à l'origine de tous nos maux. Le moteur de ces raisonnements, l'insatisfaction cognitive face à des événements traumatisants. C'est de cette frustration porteuse de suspicion que dérive le discours complotiste contemporain qui met l'accent sur le doute. Mais les réponses données, factuellement fausses, constituent de nouveaux dogmes véhiculés par les réseaux sociaux. Pierre-André Taguieff fait l'hypothèse que le complotisme répond à une demande de sens et de cohérence. L'ennemi invisible et diabolique explique tous les malheurs des hommes. En cela, les récits complotistes réenchantent le monde, fût-ce pour le peupler de démons. Mais ils alimentent en même temps des accusations mensongères. Comment dissiper de telles illusions? Alors je précise, Pierre-André Taguieff, il est philosophe, il est politiste et historien des idées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Hitler, Les protocoles des sages de Sion, Mein Kampf, Le nouvel âge de la bêtise, et l'antisémitisme. Donc, il a publié l'eugénisme aussi. Donc, c'est une personne, effectivement, qui a permis de faire évoluer tout cela. Diego Rabal, une question. Vous êtes un ancien professeur d'université qui a enseigné les sciences sociales. Pour vous, c'est quoi une théorie du complot?
Ben, je pense que la définition qu'a donnée Pierre-André Taguieff est très bonne, parce que effectivement, une théorie du complot, c'est une explication facile et à la limite évidente d'une situation qui, elle, est beaucoup plus complexe et qui souvent est beaucoup plus cachée. C'est-à-dire que dans la théorie du complot, c'est des personnes qui se cachent pour faire le complot, mais dans la réalité, en termes scientifiques, c'est la connaissance qui nous est cachée et qui nécessite un travail pour aller l'acquérir. Le bon sens est certainement la chose la plus éloignée d'une pensée scientifique. Le bon sens, c'est toujours travailler sur une évidence. La pensée scientifique, c'est de dépasser cette évidence pour trouver des causes beaucoup plus profondes. Et il me semble que la définition qu'en donne Pierre-André Taguieff est vraiment une très bonne définition, parce qu'elle centre bien sur le besoin d'explication et aussi le désarroi par rapport à un manque d'outils intellectuel pour répondre à ces questions. En fait, le informez-vous, qui est l'élément de base de ceux qui distribuent les théories du complotisme, cette idée de s'informer est une idée qui part d'un bon sentiment, mis à part que s'informer nécessite un travail d'élaboration et un travail d'aller chercher des choses qui ne sont pas évidentes a priori.
Alors, je vais lire juste le début de l'introduction, justement. C'est un fait écrit l'auteur Pierre-André Taguieff, j'y arrive. C'est un fait que les théories du complot ont mauvaise réputation. Elles sont en général jugées irrationnelles par les philosophes, les historiens et les spécialistes des sciences sociales qui, jusque dans les années 1990, ne les analysaient qu'occasionnellement. Elles sont rejetées dans l'empire du faux et du délire, et à ce titre, ont longtemps été considérées comme indignes de faire l'objet d'analyses approfondies. Elles sont aussi dénoncées comme dangereuses, eu égard à leurs effets présumés dans le champ politique. Elles sont accusées d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions et des élus, ainsi qu'à l'égard des informations scientifiques et médicales, donc par exemple d'entraver les nécessaires campagnes de vaccination. On l'a vu notamment pendant la période du Covid. Mais tous les dirigeants des régimes autoritaires libéraux recourent aux théories du complot de Vladimir Poutine et Viktor Orban à Recep Tayyip Erdogan. On accuse aussi les théories du complot de favoriser les attentats terroristes en désignant aux extrémistes des cibles diabolisées. On a pu établir qu'elles avaient joué un rôle dans les motivations des djihadistes et des suprémacistes blancs qui sont passés à l'acte. Voilà pour ce premier livre que je voulais vous présenter, les théories du complot. Vraiment, par rapport à l'actualité, lisez-le. Alors, vous savez que sur Présence, hein, on est pour la lecture. Le que sais-je, on est à 10 euros. On a parlé il y a quelques semaines de ça avec Lucie Plessala, vous savez, du prix des ouvrages, Diego Arrabal.
Oui, ce que je voulais dire, mais vous pouvez terminer votre phrase, je voudrais dire deux mots sur les éditions...
Que sais-je, allez-y.
Alors en fait, les éditions Que sais-je, c'est des éditions dont l'objet est de présenter une synthèse vulgarisée d'un domaine de connaissance. C'est une collection qui date de la fin de la guerre. Elle démarre en 46 ou 47. C'est une collection dans laquelle des spécialistes d'un domaine considérable ou considéré d'un certain domaine scientifique doivent présenter leur domaine ou un champ de recherche la façon la plus accessible possible en un nombre de pages relativement restreint, avec comme objectif de permettre à des personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine de pouvoir avoir les éléments de base pour pouvoir juger de ce domaine-là. Ça, c'est l'objet de cette collection dès l'origine. Et donc, c'est une collection de synthèses écrite par des points, entre guillemets, pointures de chacun des domaines correspondants. Donc il y en a sur les probabilités, il y en a sur la physique nucléaire, il y en a sur les sciences sociales, etc. Vous avez, il y a en gros, à l'heure actuelle, je crois qu'on doit être à 2000 ou 2500 numéros.
Et j'ai trouvé, moi, là, très intéressant. Alors j'en parle aussi parce que, bon, on parlait du prix hein, il y a quelques semaines, on est à 10 euros. On pourrait trouver des livres comme ça qui seraient à 20 ou 25 euros, qui reputeraient. Hein, on parlait il y a quelques semaines de cela, donc de problèmes de pouvoir d'achat. Là, à 10 euros, ça permet effectivement de pouvoir continuer à se cultiver, mais avec un prix effectivement qui reste raisonnable effectivement pour les auditeurs et les auditrices. D'où le choix effectivement de Présence de parler de cet ouvrage. Second ouvrage, dans un pays comme le nôtre, où les animaux de compagnie partagent nos vies au point de parfois les enchanter, il est réjouissant de lire ce roman écrit dans une langue flamboyante et qui possède un titre authentiquement singulier, Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, vous l'aurez compris, on parle du chien après son retour de promenade sous une pluie fine qui n'a pas senti l'odeur d'un chien dans une maison une fois qu'il a été sous la pluie. On pourrait penser que c'est une odeur qui est désagréable, et ben Cédric Sapin de Four, donc c'était la rentrée littéraire 2024, écrit un livre qui a priori est parti pour passer inaperçu. Il va en vendre 650 000 exemplaires. Vous vous rappelez il y a quelques semaines, hein, Philippe Subercaz, où c'est le 1% dont vous parliez. Hein, donc vous voyez, on est largement au-delà de 80 exemplaires. 650 000 versus 80, quoi, vous voyez. On est sur un livre qui vraiment a parlé aux gens, qui a été, comme le disait Lucie Plessala il y a quelques semaines, quand on a parlé avec elle, donc notre libraire partenaire, porté par le bouche à oreille. Voilà. Et c'est vraiment un livre superbe, magnifique. Je vais lire la quatrième de couverture et je l'ai vraiment trouvé formidable du début jusqu'à la fin. Quatrième de couverture, donc, de Son odeur après la pluie. C'est une histoire d'amour, de vie et de mort entre un homme et son bouvier bernois, Ubac, qui, en même temps qu'il grandit, prend une place toujours plus centrale dans le quotidien du narrateur. Certaines pages, Ubac pue le chien. Les suivantes, on oublie qu'il en est un. Et l'on observe ces deux êtres s'aimant, tout simplement. un lieu mystérieux qui, se passant de mots, nous tient en haleine. Une existence inquiète et rieuse, intense, où tout va plus vite et qu'il s'agit de retenir. Et l'inéluctable séparation dont on ne voudrait pas, mais qui lui donne toute sa substance. Reste ce fichu manque, ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher et cette odeur, malgré la pluie, a jamais disparu. Nul besoin d'être converti pour partager ces 13 années d'intimité. Cette histoire est universelle. Lisez ce livre, c'est un voyage d'évasion. Il est à 8,90 €, il est en poche. C'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné, toujours effectivement pour ce que l'on disait tout à l'heure. Vous voyez que si on prend le livre précédent et celui-là, ça fait 18,90 €. On est en dessous d'un livre que l'on va trouver aujourd'hui à 22 ou à 25 €. Troisième livre que je voulais recommander, que j'ai trouvé absolument formidable, c'est le livre donc d'un père et son fils. C'est une histoire universelle, me direz-vous. Donc on en a eu beaucoup, des livres comme celui-là, hein, sauf que celui-ci, il y a vraiment un aspect particulier. C'est un père donc qui est divorcé avec sa femme et qui doit recueillir son fils qui a tenté de se suicider et qui ne parle pas. Ça s'appelle « Mon garçon » de Xavier Demoulins. C'est aux éditions J'ai lu. Alors, toujours pareil, hein. Pourquoi on en parle ? On est en poche, 7,10 €. Vous voyez, on n'est pas sur une sélection, effectivement, de livres qui est relativement cher, mais qui permet, avec trois livres, de pouvoir avoir le prix donc, d'un livre aujourd'hui et tout le temps d'inciter nos auditeurs et nos auditrices à lire. C'est aussi le but de cette édition, parce que lire, c'est aussi voyager, quoi. Voilà la quatrième de couve qu'en fait l'auteur. Et déjà, la quatrième de couve m'a convaincu quand je l'ai lue. Mon garçon, je dois te parler de Carla, de l'année de mes 15 ans. Car avant toi, je me suis retrouvé à l'arrière de la voiture de mon père avec cette sensation de cœur en lambeaux et cette envie folle d'en finir. Au cours de sa vie, on croit souvent mourir à cause des autres. Et un jour, on prend conscience que les autres n'ont rien à voir avec ça. Tu verras. Voilà, cette quatrième de couve, elle m'a vraiment énormément touché. C'est un livre absolument magnifique, très bien écrit, où en fait, le père effectivement raconte comment à un moment donné, il essaye de retisser un lien avec son fils en se reportant sur sa propre enfance, sur sa propre adolescence, où lui aussi, eh bien, se retrouve effectivement avec une rupture amoureuse, comme son fils, et a envie à un moment donné que tout finisse. Voilà. Et c'est un livre vraiment magnifique. Moi, ces trois livres-là que je vous présente, c'est trois livres qui m'ont énormément touché, où j'ai pris énormément de plaisir à le lire. On sait que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on a parfois un peu de mal, effectivement, donc à décrocher, à se dire c'est triste tout. Là, quand on lit cette histoire, elle est lumineuse. La fin est très très belle. La fin est vraiment magnifique. Je l'ai relu plusieurs fois, la fin, tellement je trouvais que les mots étaient beaux. Et je me disais, mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres pages. Voilà. Donc lisez-le. C'est vraiment un livre absolument, absolument extraordinaire. Je vais vous lire juste le début du chapitre 5. Florence n'a pris aucun de mes appels. Passé l'affolement, j'ai bouclé ma valise et tenté de retrouver mon calme, ordonner mes pensées, essayer de refaire le puzzle. Accident, Marcus, hôpital. Elle a fini par me rappeler et m'a raconté. Le scooter, la voiture, la priorité volée au carrefour, l'impact, cette violence, la police, les pompiers, le téléphone qui sonne à 2 h du matin, la peur qui crève la nuit. La descente au bloc, l'opération en urgence, la jambe en morceaux, la crainte de ne pas pouvoir la sauver. Les élucubrations, l'ombre du doute affreux. Elle a marqué une pause. J'ai essayé de la percer en vain. La mère de Florence aussi m'a téléphoné. Un linge doux m'a entouré de chaleur. Certaines belles familles ne cessent pas le combat avant d'en avoir reçu l'ordre. Et même après, continuent à s'acharner sur la fin d'un amour. La grand-mère de Marcus est sortie de la guerre du mutisme pour me parler de mon fils et de sa vie en jeu. Le téléphone a sonné de nouveau. C'était moins grave qu'on l'imaginait. La jambe de Marcus était sauvée. Il remarchera normalement. Nous avons eu une chance folle. La voix de Florence chantait le soulagement d'une mère et presque la paix d'une ex-femme. J'ai même entendu son rire à la fin et sa bouche en un murmure. « Je t'en... Salut, Auré Pussy, je t'embrasse. » Voilà. C'est un livre vraiment admirable où on voit comment des gens, effectivement, sont amenés à pouvoir se reparler. Donc, moi, vraiment, je vous recommande ces trois livres. Hein. Xavier de Moulins.
Oui, Xavier de Moulins est journaliste.
Et journaliste. Voilà. Et donc, il était écrivain et journaliste. Il a publié plusieurs livres, dont Le Petit Chat est mort, hein, donc disponible chez J'ai lu. Voilà, vraiment un livre bouleversant, beau. Mon garçon, Xavier de Moulins, donc publié aux éditions J'ai lu. Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie, donc en livre de poche, qui là vient de sortir un livre, donc qui fait partie de la rentrée littéraire 2025. En fait, ils sont partis en Italie avec sa femme, ils ont fait du parapente, merci. Ils ont fait du parapente et en fait, le parapente de sa femme, à un moment donné, a décroché, elle s'est retrouvée au sol avec 22 vertèbres. 6 mois à maigrir et à ne plus reconnaître la femme qu'il aimait, et surtout sa femme qui lui dit « Je ne me souviens plus de notre rencontre et de notre première fois ». Et donc lui écrit ce livre pour tenter de reconstruire effectivement ses faits. C'est un livre aussi superbe effectivement que Son odeur après la pluie. C'est vraiment un écrivain qui compte. Je pense, on verra si je me trompe, qu'il se retrouvera à mon avis dans les personnes qui seront sélectionnées pour les prix littéraires de novembre pour ce livre qu'il a sorti, qu'on présentera pareil hein, quand il sera sorti donc en poche. Hein, ça arrive tout le temps, vous savez, très rapidement, environ 6 mois à 9 mois après, voilà, où le livre, en fait, a une deuxième vie et donc peut être disponible pour des personnes qui, effectivement, n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Et le premier livre, qui est un livre réflexif, de Pierre André Taguieff, Les théories du complot aux éditions Que sais-je. Vraiment, je recommande ce livre aux auditeurs, aux auditrices. Si vous voulez décrypter un peu, eh bien, effectivement, ces théories du complot, pourquoi elles ont lieu ? Quel est le travail de recherche qui a été fait ? D'où ça vient ? Quand est-ce qu'on a eu les premières théories complotistes ? Pourquoi on les utilise ? Voilà. Et ça permet ensuite, quand on lit une information sur laquelle on a des doutes, d'avoir des clés pour mieux comprendre le réel. Et je trouve que là, l'émission que l'on fait, Un jour un livre en auteur dans présence, on a aussi cette fonction-là, cette responsabilité-là, effectivement, d'essayer de présenter des livres qui vont permettre aux gens à la fois de rêver, de voyager, mais aussi de réfléchir.
C'est important, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Noni. Et puis également à Diego Rabal, qui a écouté religieusement et qui est toujours là pour nous donner
sur les théories du complot, vous voyez,
sur des définitions bien exactes. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on se retrouve la semaine prochaine, puisque je crois que vous allez refaire une section de trois autres.
Exactement, tout à fait.
À la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Reprise des audiences générales au Vatican. Après la pause du mois de juillet, le pape a poursuivi ses catéchèses sur